à toutes et à tous dans votre émission préférée, Le Doigt dans la Reprise, la petite sœur hebdomadaire et sans filet de l'impayable mensuel Rock'n'Roll Diary. Une heure consacrée chanson à l'appui à l'art de la reprise musicale avec aux manettes votre serviteur Fabien. 9e épisode déjà aujourd'hui, et non des moindres, puisque ce soir on va parler de qui ? Hein ? De qui ? Bah de qui ? Bon d'accord, c'est pas très clair, mais c'est pas moi qui choisis le nom des groupes dont je parle. Et des noms de groupes un peu idiots, il y en a plein les hit-parades depuis que le rock existe. Prenez les Rolling Stones par exemple, les pierres qui roulent, il fallait oser. Et les scarabées alors, avec une faute d'orthographe en plus. Et les garçons de la plage, les oiseaux, les animaux, les portes, les pistolets sexuels, le mort reconnaissant, les mamans et les papas, les bandes blanches. Certains avaient au moins l'alibi de la référence culturelle, comme la machine molle ou du sang, de la sueur et des larmes. Déjà la semaine dernière, dans notre spécial Dylan consacré aux Basement Tapes, il était beaucoup question d'un groupe qui s'appelait The Band. On aurait pu croire qu'on arrivait là au bout de l'imagination, question appellation incontrôlée, mais en fait, on l'avait déjà atteint avant, avec les qui ? Bah oui, les Who, tout simplement. C'était au début des années 60 et quatre musiciens londoniens qui secouaient sur scène un répertoire entièrement constitué de reprises top niveau, genre James Brown ou Bo Diddley, se faisaient encore The High Numbers. Avant ça, c'était les Détours. Bref, très inspiré. Et un ami leur a soufflé la bonne idée définitive. Pas particulièrement emballé par la signification de Who, le guitariste Pete Townshend, le bassiste John Entwistle, le chanteur Roger Daltrey et le batteur Doug Sandom ont en revanche vite apprécié le côté percutant du patronyme et toutes les possibilités qu'il offrait graphiquement parlant. Rebaptisés et débarrassés d'un batteur que l'histoire a oublié, les Who devaient pour décoller face à une concurrence monstrueuse, Beatles, Stone, Animals, Kings et j'en passe. Ouais, bref, les Who devaient vite se forger une identité. Une fois Keith Moon recruté derrière les fûts, la machine rock tournait déjà un peu mieux, mais il manquait encore un truc, un gimmick. Quelque chose de fracassant qui les distingue de leurs contemporains. Et le truc est arrivé un peu par hasard. Un soir de concert, Pete Townshend a bousillé sa guitare contre le plafond un peu trop bas d'un club où le groupe avait ses habitudes, le Railway. Énervé, il a achevé son joujou sur les amplis. Ni une ni deux, la rumeur court vite que ces musiciens-là sont des sauvages qui détruisent leurs instruments. Ce qu'ils feront volontiers par la suite pour entretenir la légende. Keith Moon renversant les bonsoirs l'intégralité de sa batterie très coûteuse sur les planches. Ou la faisant péter avec des explosifs. Bref, on avait les musiciens, on avait le nom, on avait la réputation, restait le look et les chansons. Côté look, les Who ont suivi les consignes de deux types, Keith Lambert et Chris Stamp. Ils leur ont dit « Vous serez des modes, les gars », et ils ont accepté. Alors bon, pas de confusion, c'est modes sans le « e » à la fin. C'est un mouvement des années 60 ultra codé avec fringues, cheveux, musique et style de vie adéquat. Il fallait un scooter, une sorte de coupe au bol, aimer la soul et ne pas se tromper dans le nombre de boutons à fermer pour sa veste. Les Who deviennent donc en un tour de main les chefs de file de ce mouvement mode, ce qui est un peu une escroquerie commerciale, mais bon. Comme le punk, la décennie suivante après tout. Hein. Et les chansons ? Alors les chansons, j'allais y venir, le premier 45 tours du groupe, encore appelé The High Numbers, avait fait un bide au cours de l'été 64. Ça s'appelait I'm the Face et c'était pas formidable. Mais Pete Townshend se mit à écrire et composer et a pondu d'emblée un petit chef-d'œuvre pop-rock que l'on écoute tout de suite, I Can't Explain, par les Who, puis par un de leurs fans, un certain David Bowie.
Can't explain. I'm feeling good now, yeah, but can't explain.
I Can Explain par les Who, puis par David Bowie. I Can Explain, le premier single officiel du groupe. David Bowie, à l'époque des Who naissants, était mode aussi et pas encore connu. Il s'en est donc souvenu en 1973, au sommet de sa gloire, en pleine période Ziggy Stardust et Aladdin Sane. Il sortait alors un album de reprise en hommage à ses idoles de jeunesse, on trouvait donc les Who, mais aussi les Kings ou les Pretty Things. Le disque s'appelait Pin-Ups. Et il contenait également Anyway, Anyhow, Anywhere, le second 45 tours des Who, qu'on écoute donc tout de suite dans les deux versions. I can go anyway, won't you?
We'll be right back.
Anyway, Anyhow, Anywhere, des Who, ça fait une belle allitération, puis par David Bowie. Vous avez remarqué, ça marche aussi. La chanson additionne les effets dont les musiciens sont friands sur scène, larcène, distorsion, roulement de batterie, déjà suffisant pour partir en tournée européenne. Le morceau fonctionne au point de devenir le générique de la mythique émission musicale britannique Ready Steady Go. Bowie ne sera pas le seul à se fondre dans ce titre écrit à quatre mains par Townsend et Roger Daltrey. Si David a retenu le potentiel pop de la mélodie, les Flaming Lips y ont vu l'occasion dans les années 90 de greffer leur patte psychodélico-garagesque. En voici la preuve avec encore donc Anyway, Anyhow, Anywhere, version Flaming Lips. I can go anyway. Anywhere par les Flaming Lips. Revenons à vous savez qui, les Who. Ils avaient déjà du succès donc, mais ce n'était encore rien comparé au carton à venir, le tube générationnel My Generation et son bégaiement culte, sa basse vrombissante, son chaos total à la fin. Ses paroles définitives aussi, je préfère mourir avant d'être vieux. L'hymne d'une jeunesse révoltée à ex-aequo avec le Satisfaction des Stones en 65. Patti Smith le rejouera sur scène pendant des années en clôture de ses concerts. Quant à Substitute, le single suivant, son impact sera moindre pour les masses. Il faut dire que les paroles n'y allaient pas par quatre chemins sur le malaise adolescent. Tu trouves qu'on va très bien ensemble? Tu crois que mes chaussures sont en vrai cuir? Mais je suis une doublure pour un autre mec, je vois clair à travers ton imper transparent en plastique. C'est sûr, c'est moins fédérateur que le « je n'essaie pas de faire sensation, j'essaie juste de parler de ma génération, de my generation ». Mais ça en faisait de la bonne cam pour les futurs punks. Les Ramones s'en sont souvenus en donnant leur vision de Substitutes. On écoute donc Substitutes par les Who, puis par les Ramones. You think we look pretty good together? Shoes are made of leather, but I'll substitute for another guy. Substitute par les Who, puis par les punks new-yorkais affreux, sales et méchants, les Ramones. Des Ramones pas si punks que ça finalement, parce que outre leur album spectorien End of the Century en 1980, qui ne bénéficiait pas vraiment d'une production sauvage, les frères Ramones ont enregistré cette reprise des Who en 1994, oubliant donc, comme le leur intimait Roger Daltrey, de mourir avant d'être vieux. Bon, depuis certains ont passé l'arme à gauche, mais quand, comme tout bon punk, on a craché sur ses aînés et qu'on se fonde un album entier de reprises, Acid Eaters, autrement dit les mangeurs d'acide, avec au programme donc les Who, mais aussi les Stones, Creedence Clearwater Revival, Bob Dylan et même, c'est un comble, le groupe psychédélique californien Love, eh bien, on doit faire moins les malins. Hein. Bref, passons. De toute façon, les Who ne vont plus rester longtemps les héros de la sauvagerie musicale, en studio en tout cas. Après avoir mis en boîte ce que Townsend considérait comme un mini-opéra rock, A Quick One While He's Away, que l'on peut traduire par un coup vite fait pendant qu'il n'est pas là. Eh bien, les Who s'engagent dans un virage pop avec peut-être leur plus grand album, The Who Sell Out, où l'on retrouvait Mary Ann with a Shaky Hand, que l'on écoute tout de suite version Who, puis dans la bouche de Petra Haden.
There suddenly seen Mary Ann with the shaky hands. What they've done to a man, the shaky hands. Mary is so pretty, the prettiest in the land. Guys come from every city just to shake her shaky hands. Linda can cook, she reads books. Cindy can sew, but I'd rather know. Mary Ann with the shaky hand, what they've done to a man of no shaky hands. Shaky hands, what they done to a man, those shaky hands.
Mary Ann with a Shaky Hand des Who, réenchantée par Petra Haden. Alors de quoi parle cette chanson ? Bon ben il suffit de traduire le titre, Mary Ann et la main qui secoue. Je dois vous faire un dessin ? Ok, donc juste avant, les Who avaient aussi publié un single intitulé Pictures of Lily et qui traitait du même sujet. Vous voyez le rapport ? Toujours pas ? Une main qui secoue, les images d'une fille ? En tout cas, les ados de l'époque, qu'ils aient compris l'allusion ou pas, se sont rués sur le disque. Quant à Petra Haden, chanteuse et violoniste de son état, elle a été tellement émoustillée par l'album contenant la chanson qu'elle s'est lancée dans sa reprise intégrale a cappella en 2005, allant jusqu'à parodier la pochette du disque, une pochette mythique où l'on voyait les quatre membres des Who dans des détournements publicitaires très pop art. L'album était d'ailleurs entrecoupé de fausses réclames, on l'a entendu. Il faut dire qu'à l'époque, les modes les purs et durs avaient crié à l'escroquerie rock'n'roll. Le manager du groupe n'a-t-il pas noué un contrat avec un marchand de guitare pour fournir son massacreur préféré ? Et ses tournées américaines avec Show Millimétré et Kiss Moon qui ne se contente pas de casser sa batterie, mais est la première rockstar à régulièrement détruire ses chambres d'hôtel au point d'être interdit à vie d'Holiday Inn. Il abuse pas un peu pour faire scandale ? Bref, la théorie, les Who sont dévendus, loin de déplaire au groupe, leur fournit le concept de The Who Sell Out. Mais une chose est sûre, quand ils cassaient tout, parfois, c'était sincère. La preuve avec I Can See For Miles, qu'on écoute tout de suite sorti des fûts des Who, puis dans une reprise, comment dire, originale, d'un certain Lord Sitar.
I know you deceived me, now here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles. Right through the
I Can See For Miles des Who, revu par Lord Sitar. À l'époque de la sortie de la chanson, en 1967, le hard rock n'existait pas encore. Jimi Hendrix, également casseur de guitare, débutait, et les Yardbirds servaient de camp d'entraînement à Jimmy Page avant Led Zeppelin. Donc, à l'époque, I Can See For Miles était très violent, au point que Paul McCartney, qui n'était pas le dernier question « Qui c'est le meilleur ?», avait oui la chanson et avait été piqué à vif par un critique rock décrétant que I Can See For Miles était le morceau le plus bruyant du rock. Jaloux, évidemment, le bassiste des Beatles a dégainé dans la foulée un Helter Skelter d'anthologie dont le but était simplement d'être plus violent que les Who, ce qui était vrai d'ailleurs. Bref, les Who s'envoyaient quand même. Mais avec toujours un travail mélodique derrière, ce qui facilitera la vie des repreneurs les plus variés à l'image de Lord Sitar qu'on vient d'entendre. Derrière le nom de Lord Sitar se cache un requin de studio des années 60, un as de la gratte qui a traîné sa six cordes de Joe Cocker à Tom Jones, en passant par Eddie Mitchell, Johnny Hallyday ou Serge Gainsbourg. Vers la fin de la décennie, Big Jim Sullivan a découvert le sitar et a livré deux albums de reprises avec cet instrument indien. Il faut dire qu'à l'époque, George Harrison, mais oui, on parle encore et toujours des Beatles, George Harrison donc avait popularisé le sitar avec les albums Revolver et Sgt. Pepper. Et tout le monde s'était dit « si on mettait un peu de sitar dans nos chansons ». Big Jim Sullivan survivra à la mode de l'instrument. Il a, guitare en main dans toute sa carrière, participé à l'élaboration de 55 numéro 1 dans les hit parades britanniques. Il est mort en octobre dernier, paix à son âme. Et trêve de rock, profitons-en pour saluer l'âme du jazzman Dave Brubeck, dont je vous ai pas mal parlé il y a deux semaines, lors d'un épisode des Doigts dans la reprise consacré à Claude Nougaro et qui est mort le jour de la diffusion de l'émission. Voilà pour les hommages, mais restons avec les Who et leur album The Who Sell Out pour une nouvelle paire de reprises, Tattoo par les Who, puis par Tommy Keane.
Talking to each other about what makes a man. Was it brain or brawn or the month you were born? We just couldn't understand. Our old man didn't like our appearance. He said that only women wear long hair. So me and my brother from mother, we knew what we had to do. We went downstairs past the barber and gymnasium and got our arms tattooed.
Welcome to my life, tattoo. I'm a man now, thanks to you.
I expect I'll regret you, but the skin rot hand won't get you. His tattoo was of a lady in the nude, and my mother thought that was extremely rude.
Welcome to my life, tattoo. We've a long time together, me and you.
I expect I regret you, but the skin got and won't get you.
Tattooed, a really good tootie, 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 tootie.
regret you, but the skin graft man will get you. You'll be there when I die. Tattoo.
Tattoo version Woo, puis version Tommy Keane. Ce chanteur américain a accentué le côté pop du morceau pour les besoins d'une face B que l'on peut aujourd'hui retrouver sur le disque The Real Underground, publié en 1993. On avait laissé les Woo dans le pop art, on va les retrouver dans l'opéra rock, le vrai, peut-être l'ultime. Car après A Quick One While He's Away, Townsend veut retrouver le fil de chansons qui racontent une même histoire. Ce sera le célébrissime Tommy, en 1969, l'histoire d'un jeune homme sourd, aveugle et muet qui devient champion de flipper. A-t-on raconté comme ça, ça paraît improbable, c'est vrai, mais si je rentre dans les détails, ça risque de l'être encore plus. Il n'y avait qu'à voir le film du même nom tourné quelques années plus tard par Ken Russell, où apparaissaient Tina Turner, Elton John ou encore Eric Clapton, pour s'en rendre compte. Mais peu importe les textes quand la musique est bonne, et elle l'était. La preuve avec un des morceaux clés de Tommy, Pinball Wizard, autrement dit le magicien du flipper, par les Who, puis par The Harry Rush Constellation.
Such a surprise.
Pinball Wizard et Woo repris de manière bizarroïde par The Harry Rush Constellation, un brass band mené par le tromboniste Harry Rush, d'où le nom, à qui l'on doit un album de reprise funky tout en cuivre vombrissant et en wah-wah. C'était en 1973, le disque s'appelait Spirale. Quant au Woo, la spirale, ils l'ont connue, que ce soit celle du succès ou celle de l'échec. Après le légèrement boursouflé Tommy, ils sont retournés aux fondamentaux rock avec Who's Next, leur dernier chef-d'œuvre. Et puis il y a eu Quadrophenia, l'opéra rock de trop et des albums assez vite oubliés. Côté humain aussi, la débandade était bien au rendez-vous. Après la casse du matériel, c'est le corps qui lâche. Kiss Moon meurt en 1978, overdose, avec un médicament qu'il prenait pour lutter contre son alcoolisme. Les autres s'habituent aux cures de désintox et roulent toujours, mais le réservoir à idées est vide. John Entwistle est mort assez récemment, et Pinthousand vient de sortir une autobiographie où il sous-entend très fort qu'il a été victime de pédophilie dans sa jeunesse. Il y a quelques années, c'est lui qui était sur le banc des accusés pour avoir téléchargé des images. Quant à Roger Daltrey, malgré sa coupe de cheveux, il va plutôt bien. Enfin, je crois. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la balade musicale du côté de chez qui vous savez. De toute façon, vous pourrez retrouver cet épisode des Doigts dans la Reprise et tous les précédents sur le site de 48FM, 48FM.org, et le podcaster pour l'écouter dans votre bain moussant. Je connais quelqu'un qui le fait et ça marche très bien. Avant de se quitter, on va faire nos petites emplettes habituelles dans la rubrique Actu. Côté pop, on a une ressortie du premier album du duo 100% Made in France, Brigitte. Une réédition accompagnée d'un deuxième CD d'inédits. Que des reprises, comme d'habitude. Elles ont fait le grand écart entre Walk This Way d'Aerosmith et le Allumer le Feu de Jean-Philippe Met. Côté rock, on a un album tribute à Deep Purple, oui c'est du lourd dans tous les sens du terme. Tout le disque Machine Head est revisité dans un effort collectif naturellement intitulé Re-Machine Head. L'occasion d'entendre les Kings of Chaos ou Papa Roach faire les méchants hardeux en hommage à leurs aînés. Enfin, côté mode, on retrouve Rod Stewart, on l'avait pas vraiment perdu. Hein. Sa voix éraillée revient régulièrement nous caresser les tympans, notamment avec sa série d'albums de reprises Songbook, où il reprend tout ce qu'il lui chante. Mais là, Rod The Mod, ex-leader des Faces, nous la joue traditionnelle, avec un album de Noël comme seuls les anglo-saxons osent le faire. Bizarrement, ça sort juste avant les fêtes. Ça me permet d'ailleurs de vous souhaiter de bonnes, de fêtes, et j'espère en notre compagnie, parce qu'on ne va pas vous lâcher comme ça entre le homard et le foie gras. Non, on va même mettre les bouchées triples pendant les vacances. Je vous donne rendez-vous le mardi 25 décembre à 20h, le soir de Noël donc, pour une émission spéciale consacrée à Noël. Que des chansons de Noël, de Brassens à Bob Dylan, en passant par Sinatra et Tom Waits. Et comme ma hôte déborde de cadeaux, je remettrai une couche le lendemain, le mercredi 26 décembre, et le surlendemain, le jeudi 27. Toujours avec le Père Noël, la Mère Noël, la fille du Père Noël, Santa Claus, sa femme Jésus, et tout un tas de types dont je ne me rappelle plus le nom. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura moins de blabla et plus de chansons, et que les trois émissions seront rediffusées durant toutes les vacances. Enfin, Ludo m'en a fait la promesse, en tout cas. Je vous conseille de les podcaster, ça vous fera une bande-son pour les fêtes cette année, mais aussi pour les suivantes. Bon, à une condition, que vous soyez sages, hein. Je vous laisse à votre lettre de réclame au gros barbu avec un bout d'I Can Explain the Who, mais cette fois en live à la fac de Litz, en 1970. Bonne écoute et à bientôt.